Avec ses mille sillages, la mer murmure au bateau le mystère de ses eaux. De vague en vague déchirante, dans les eaux douces étincelantes, se mêlent la colère et le calme. Entre le vent et les algues, les flots d'or et d'azur nous bercent l'âme comme un doux amour et déposent sur le sable l'écu de nos jours. Avec ces mille voyages, avec ces mille orages, la vie comme une barque dans une mer sans rame. Au loin le large bleu dessine une ligne, une fin, des adieux. Où voguent tous les navires vers l'écume de tes yeux. Quand vient la houle agitée dans une plainte insensée, bateau flotte au hasard, se balance, tangue et s'égare. Au loin le large bleu dessine une ligne, une fin, des adieux. Où voguent tous les navires vers l'écume de tes yeux. Ma patalito, ma patalito.
avec ses mille rivages, avec ses mille sillages, la mer murmure au bateau, le mystère de ses eaux. Avec ses mille orages, avec ses mille voyages, la vie.
Ouais, je sais pas, j'essaye de faire. Si vous arrivez à venir dans le premier tiers de la salle, ça sera plus sympa.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, et oui, à ce dernier culte de l'année 2025 ici dans ce local. En arrivant à la fin d'une année, il est en général de bon ton de se retourner sur ce qui s'est passé ou qui s'est bien passé ou qui s'est mal passé durant l'année écoulée. Mais il ne faut pas laisser la tête derrière, il faut regarder devant. C'est également le moment de prendre de bonnes décisions pour l'année à venir et de se promettre qu'on fera bien mieux. Mais pour cela, nous avons besoin de l'aide d'en haut, de Dieu, de Jésus-Christ, et du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 5 nous dit « Votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Éphésiens 2, verset 10 « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparé à l'avance afin que nous les accomplissons. » Qu'est-ce que c'est que ces bonnes œuvres? C'est vrai que bien souvent, on dit « Oh Seigneur, je ne suis certainement pas à la hauteur. Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. » Le Seigneur ne nous demande jamais des choses au-dessus de nos forces. En 2 Corinthiens 12, verset 9, Dieu dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Un exemple tout simple qui montre qu'une attention bienveillante peut changer la journée de quelqu'un. En début de semaine, Chantal prend le bus et rencontre un chauffeur qui vient de se faire vertement critiquer par une dame parce qu'il avait du retard, absolument indépendant de sa volonté. Chantal l'a simplement remercié pour son travail et lui a souhaité de belles fêtes. Il était très ému et a répondu « Chère madame, vous illuminez ma journée, je me sens mieux, merci. » Pas besoin d'avoir un don spécial pour féliciter quelqu'un ou pour l'écouter. Que pour cette année 2026, nous puissions tous prier, et c'est une prière que j'ai lue dans une de mes lectures, « Seigneur, aide-moi à attiser ton feu dans ma vie chaque jour pour la gloire de ton nom. Mon Dieu, je te demande du plus profond de mon cœur de me parler et de m'aider à voir toutes choses comme toi tu les vois. Je dépose entre tes mains cette année qui se termine et je te remets celle qui débute. Je pardonne et j'ouvre mon cœur. Fais naître en moi ta paix, ta joie, ta lumière. Sois le centre de ma vie aujourd'hui et chaque jour. Amen.
Bonjour tout le monde. Après avoir fêté en famille la naissance de notre Sauveur, la lumière du monde, nous nous réjouissons de chanter ses louanges. Le dernier couplet du premier chant dit « Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre Roi. Comme eux, chantons gloire à son nom. » Je prie de vous lever. Jamais nous chanterons Jean 1, verset 14, il est écrit « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Voilà pourquoi il nous faut lire la parole et chérir la parole, car elle est comme Jésus, pleine de grâce et de vérité. Chantons « Je garde ta parole ». La connaissance approfondie des Écritures permet de discerner combien la transformation ne se fait pas ni par la simple raison, ni par la seule volonté, mais en laissant la parole pénétrer profondément. Elle façonne le caractère, nourrit l'espérance et permet d'aimer à la manière de Jésus. Dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Dans Ézéchiel 36, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Chantons, change. Transforme-nous pour ton royaume. Devant toi, je change nos vies et nos envies. Rends nos cœurs humbles, nos bonheurs saints. Et change mon cœur gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi ton
Vous avez bien fêté Noël? Ah, super. Ben, on est content de vous voir ce matin, même si vous n'êtes pas très, très nombreux. Mais c'est normal, il y en a qui sont encore en vacances. Mais vous aussi, vous êtes en vacances? Non? Ah, il y a un nouveau bébé. Oui, alors ce n'est pas les vacances, ça c'est sûr. Il réveille souvent la nuit? Ah, mince alors, ouais. Oui. Oh, elle pleure et elle mange tout le temps. Mince alors. Bon, écoutez, ce qu'il y a de super, c'est que même si on n'est pas très nombreux ce matin, eh ben, il y a Pauline qui va s'occuper de vous en bas. Donc vous allez pouvoir descendre. Ah ben, vous allez découvrir Pauline. Elle est tout là-bas derrière. Hein? On l'applaudit. Ouais, bravo. Merci, merci Pauline. On va encore juste prier pour vous avant que vous descendiez. Merci Seigneur pour tous ces enfants dans notre église. On te les remet vraiment. On te remet aussi Pauline pendant ce moment qu'elle va passer avec eux. Amen. Amen. Voilà, amusez-vous bien.
Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour aussi à Olivier qui s'est caché là-bas au coin, qu'on voit de temps en temps. Merci, bienvenue à toi. Alors voilà, en cette... Pardon ? Ah, je ne l'avais pas vu, voilà. Sa femme et le bébé, voilà. Bienvenue, on est content de vous voir. Alors en cette fin d'année, fin de décembre, avec très peu de soleil, sauf pour ceux qui ont le privilège de monter en altitude, alors je me suis posé un peu la question de la transmission. Et je vous propose une réflexion, une ébauche de réflexion, mais qui sera suivie par un temps de partage. Sans doute suis-je à une étape de la vie où on se pose plus précisément cette question-là, mais je pense qu'à chaque étape de la vie, on se la pose aussi. Alors, en tant qu'être humain, on est des êtres de transmission. Comparé aux autres animaux, on a un instinct complètement sous-développé. On est complètement dépendant à la naissance. Oui, on a des instincts de base, comme avoir faim, comme pleurer, là, comme quand on est un petit bébé, pour réclamer sa tétée, la peur, taper quand on n'est pas content. Mais on a tout à apprendre. Et ça nous prend 15, 20, 25 ans. Hein? Et on n'a jamais fini. Exactement, on n'a jamais fini. On passe sa vie à apprendre. D'ailleurs, c'est ce que j'essayais de transmettre à mes élèves qui, des fois, croyaient qu'une fois qu'on a fini l'école, on a tout appris. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai le souvenir de la naissance d'un petit poulain. Et il me semble qu'au bout de quelques, je ne sais pas si c'était 20, 30 secondes, il était debout sur ses quatre pattes. C'est assez impressionnant. Bon, c'est plus facile avec quatre pattes qu'avec deux, on est d'accord, mais quand même, nous, ça nous prend une bonne année hein, pour y arriver. Alors, le premier lieu de transmission, bien sûr, c'est la famille, mais c'est aussi l'école, c'est l'église. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux avec tous les défis que cela pose. Alors, je pense qu'on a quelque part un espèce de besoin humain de laisser une trace aussi. Je pense au président Mitterrand, c'est un peu une vieille histoire, mais voilà, lui, il a laissé une trace avec le musée du Louvre, avec la pyramide du Louvre et avec la très grande bibliothèque. Voilà, et ça, c'est un peu l'orgueil humain hein, qui se manifeste. Alors, personnellement, je me pose ces questions à différents niveaux. Qu'est-ce que je transmets dans l'Église ? Qu'est-ce que je transmets ou que j'ai pu transmettre dans mes engagements en mission ? Dans mes engagements professionnels en tant qu'enseignant ? Dans la famille ? Alors, on y reviendra. Mais chacun, en fait, on est inscrit dans une espèce de chaîne de transmission de beaucoup de choses qu'on a reçues et puis de ce qu'on transmet plus loin. Tout ce qu'on transmet explicitement et aussi tout à fait implicitement par notre manière d'être, par notre vie quotidienne. Alors j'avoue que cette fois, c'est la question qui m'a amené un peu au texte biblique. C'est peut-être un peu hérétique de préparer un message de cette manière, mais voilà. C'est cette question qui m'a amené à deux textes bibliques. Le premier, c'est un texte écrit par Paul, qui écrit à l'église de Corinthe. Il a lui-même vécu une année et demie dans cette ville de Corinthe. C'est lui qui a fondé cette église, et 4 à 5 ans plus tard... Il y a eu d'autres prédicateurs, il y a eu d'autres influences, il y a des risques de division dans l'Église, Et voilà ce qu'il écrit.
Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et j'ai posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille.
Et le deuxième texte que je vous propose, il est dans l'Évangile selon Matthieu, dans ces trois chapitres qu'on appelle le Sermon sur la montagne.
Juste afficher le texte. Ah voilà. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni mites ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler, car ton cœur sera toujours là où est ton trésor.
Alors ces deux textes, ils évoquent chacun à sa manière la question de la vraie valeur, la valeur éternelle, on pourrait dire, ou de la futilité de nos actes et de nos paroles. L'histoire de Paul, il a fondé une église, c'est normal que d'autres poursuivent la tâche. Dans l'église aussi, on a des chaînes de transmission, on a des pasteurs qui se succèdent. Mais Paul s'inquiète de voir qu'il se forme des partis autour de certaines personnes, autour de certaines idées. Et c'est des choses qui sont récurrentes dans l'histoire de l'Église. Et en somme, même sans les téléphones portables, il y avait déjà des influenceurs. À cela, il rappelle que il y a un unique fondement qui est la personne de Jésus-Christ. Ce n'est même pas une doctrine ou une confession de foi, c'est une personne. Alors c'est quoi bâtir sur quelque chose de précieux, hein, or, argent, pierre précieuse, ou au contraire du bois, du foin, de la paille. Là, il a deux séries de trois qui sont... qui vont du plus précieux à ce qui se brûle le plus facilement. C'est une image destinée à nous faire réfléchir à nos engagements. Je pense que ça va assez au cœur de ce qui motive nos engagements. Tout ce que je fais pour ma gloriole personnelle, c'est de la paille. Ça brûle, ça vaut rien. Et parfois, ça fait des dégâts. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui contribue à construire la communauté, à construire son unité en respectant la diversité des dons, des sensibilités. Qu'est-ce qui contribue à ce que chacun ait sa place, chacun soit accueilli, soit reconnu, soit encouragé. Qu'est-ce qui contribue au rayonnement de l'Église locale. Qu'est-ce qui contribue aussi à l'Église universelle? Parce que l'Église, ce n'est pas notre petit groupe, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et qu'est-ce qui contribue au rayonnement de l'Évangile dans le monde? Ben, dans tout ça, on est chacun un maillon de la chaîne. Où qu'on soit pasteur, qu'on soit dans le conseil, qu'on soit... Un simple membre, chacun a son importance. Alors, c'est vrai que de toute manière, il y a toujours un peu de paille qui sera brûlée. Ça, on n'y échappe pas. Parce qu'on n'a jamais, on n'est jamais tout à fait pur dans nos intentions et nos motivations, il faut bien le reconnaître. Mais on est appelé à nous tourner vers ce qui a de la valeur. Maintenant, dans les versets du Sermon sur la montagne, c'est plus l'image du feu, hein, mais c'est l'image de la rouille des mythes et des voleurs. Alors, au premier niveau, Jésus vise naturellement l'attachement aux biens matériels. Nos comptes en banque, nos voitures, nos ordinateurs, nos maisons, qui sont parfois des bénédictions, et puis c'est vrai que dans la transmission matérielle, c'est des fois des choses qui font pas mal de dégâts dans les familles. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, nous dit Jésus. C'est comme une récompense. Hein? Et Jésus évoque plusieurs fois dans le sermon sur la montagne l'idée de récompense. Dans le ciel, c'est quoi? Heureux êtes-vous quand on vous persécute, car vous aurez une récompense dans le ciel. Quand tu fais l'aumône, donc quand tu fais des dons aux pauvres, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche, afin que ton aumône reste secrète, car ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Alors Jésus oppose un peu la religion des chefs religieux, hein, qui se comportent de manière à être vus comme les gens les meilleurs dans la société, à une attitude authentique qui a sa récompense dans le ciel. Cette idée de récompense, on pourrait y voir une certaine analogie avec une idée orientale, hein, qui est celle du karma. Le karma, c'est cette loi inexorable qui relie les actes à leurs conséquences. Et dans l'optique de la croyance à la réincarnation, les gens pensent que voilà, ces actes vont déterminer la qualité de vie de ma prochaine renaissance. Mais la grâce, c'est quelque chose qui vient briser cette espèce de caractère inéluctable, puisque nos péchés sont pardonnés. Nos manques, nos fautes peuvent être pardonnés, et il y a toujours possibilité de repartir. Cette grâce nous libère. Mais ça n'annule pas l'idée de récompense. On ne va pas travailler pour la récompense, mais on sait qu'il y a une récompense. Ces récompenses sont d'un autre ordre que l'idée de donnant-donnant, hein, qu'on a, comme un des anciens présidents de la France qui parlait de travailler plus pour gagner plus. C'est pas ça, hein, c'est pas ça l'évangile. Il s'agit bien d'aimer parce que j'ai été aimé, de donner parce que j'ai reçu. C'est des dons matériels, des dons par le service, dons de notre temps, de l'attention donnée aux autres. Tout cela à la fois gratuitement et dans la perspective de la récompense qui nous attend. L'aspect que qu'on pourrait retenir pour ce matin, c'est que tout ce que je garde pour moi ou que je fais pour moi, c'est perdu. Mais tout ce que je peux donner, tout ce que je peux transmettre et qui a une valeur éternelle, voilà, c'est ça qui donne la récompense. Et chacun a quelque chose à transmettre. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on est appelé à transmettre? C'est vrai que en Église évangélique, quand on pense à la transmission, on pense immédiatement à la transmission de l'Évangile. Il y a des lieux, il y a des moments propices pour la transmission directe du message de l'Évangile. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres lieux qui ne sont pas forcément propices à la prédication, si vous voulez, mais tous les lieux et tous les moments sont propices à une transmission des valeurs de l'Évangile. C'est-à-dire d'incarner la justice, la valeur de chaque être humain, l'attention aux plus fragiles, le pardon, toutes ces choses que Jésus a vécues tout au long de son existence et qu'il a transmis à ses disciples dans son enseignement. Dans les ONG chrétiennes, c'est des questions qu'on se pose parce que souvent les ONG travaillent essentiellement dans le domaine humanitaire. Et c'est vrai qu'il y a le risque pour ces ONG chrétiennes de perdre leur âme quelque part en ne faisant que l'humanitaire et en oubliant le message de l'Évangile. Et pourtant, je crois que les valeurs de l'Évangile peuvent imprégner, porter quelque chose dans la société, même quand il n'y a pas la possibilité de dire le message. C'est quelque chose qu'on vit très fortement au Laos parce qu'on est dans un pays où on est limité dans la manière dont on peut et dans les lieux où on peut dire les choses. C'est assez paradoxal parce qu'il y a à la fois beaucoup de liberté et beaucoup de surveillance. Mais ça, l'Évangile passe des fois à travers des choses toutes simples. Pareil, un exemple, j'y pense maintenant, on a nous des équipes qui sont mixtes avec des chrétiens et des non-chrétiens, des temps de partage parfois autour d'un texte biblique avec des non-chrétiens, auxquels on ne demande pas d'être chrétiens, mais qui sont tout contents qu'on prie ensemble pour quelqu'un qui est malade ou qui a un problème. Voilà, c'est des petites choses toutes simples où l'Évangile peut passer, même sans faire aucune prédication. Et puis, c'est vrai qu'on a des signes de ce qu'a apporté à la société le message de l'Évangile. Toutes les préoccupations sur les droits de l'homme, c'est quand même très largement un fruit du message de l'Évangile. Ce que fait la Croix-Rouge, qui est devenue quelque chose de complètement laïque, c'est quand même une imprégnation de l'Évangile à travers quelque chose qui est venu du réveil de Genève il y a 2 siècles. Et c'est un peu comme le sel. Il y a l'image du sel dans le serment sur la montagne aussi. Je fais juste une petite digression. Le sel, du point de vue chimique, quand vous dissolvez du sel dans l'eau, il y a point de sel dans l'eau. Que le sel, c'est du chlorure de sodium. Dans l'eau, vous avez du chlore, des atomes de chlore et des atomes de sodium qui se baladent indépendamment des autres. Si l'eau sèche, ils vont se remettre ensemble et former du sel. Donc je crois que l'Évangile a quelque chose à dire au monde entier, même au-delà de ce que sont les églises, les chrétiens. Et je ne crois pas que... On a des fois imaginé peut-être qu'il faudrait que tout le monde se convertisse ou qu'il y ait le plus possible de chrétiens pour que les choses aillent mieux. Mais je ne suis pas très sûr. Quand on voit l'histoire de l'Église, on peut se poser des questions. Transmettre... Comment ? Ben, ce que nous transmettons, ça a des racines profondes dans ce que nous sommes, donc dans notre relation intime avec Dieu. Si nous sommes vraiment réconciliés avec Dieu, si nous sommes en paix avec Dieu, avec nous-mêmes, nos attitudes, quand on a une contrariété, quand on a un problème. Vous savez bien d'ailleurs que si on gronde nos enfants quand ils disent un gros mot, puis que le jour suivant, on part en voiture et il y a une voiture, je ne sais pas, qui nous fait une queue de poisson ou un truc, on dit quelques. Bon. Je vous laisse deviner quel mot on utilise et qu'est-ce qui est transmis le plus fort entre les deux choses. Alors, voilà, on va vous proposer tout à l'heure de partager certaines choses. Moi, je vous donne quelques éléments de témoignage personnel. Je parle souvent du Laos parce qu'effectivement, c'est un pays où on a vécu 3 ans et demi. Il y a une rupture due à la situation politique. Il semblait que tout s'arrêtait d'une mission qui avait duré 3/4 de siècle. Et puis après 20 ans de persévérance, de visite, des portes se sont ouvertes pour une autre manière d'être présent dans ce pays. Justement avec une ONG chrétienne qui fait du travail humanitaire. Mais je suis reconnaissant de ce qui s'est transmis. J'y ai participé, mais d'autres, on a été, les Heiniger ont joué un rôle majeur dans tout ça. Et je me souviens, je voyais des jeunes qui sont engagés là-bas, qui ont le même âge que ce que j'avais quand je suis parti il y a un demi-siècle. Et voilà, je vois ces personnes qui sont engagées dans un service, qui font tout autre chose que les anciens missionnaires, mais qui sont en même temps tout à fait conscients d'être quelque part assis sur les épaules d'une longue chaîne d'engagement missionnaire dans ce pays. Dans l'église de Mérin, je suis reconnaissant de voir que l'ouverture, qui est une chose qui me tient à cœur, est quelque chose qui est inscrit dans la vie, dans l'identité de l'Église. De même pour l'œcuménisme, qui est une chose auquel aussi je tiens par différentes. C'est un peu toute une vie de contact, etc. J'étais reconnaissant de voir qu'à cette célébration du 24 au soir, au CEPOM, où malheureusement il y avait trop peu d'entre nous présents, mais dans la préparation de cette très belle cérémonie, il y avait un très bon engagement des gens de notre Église. Je pense aussi dans l'enseignement, où on n'est pas, on fait pas non plus de l'évangélisation quand on donne des cours de maths, mais je pense à des choses comme l'attention à des élèves et aux situations particulières, à des discussions des fois en conférence des maîtres, parce qu'il y en a certains maîtres qui sont très axés sur « il faut absolument garder le niveau ». Et puis il y a le règlement, et puis là il manque un demi-point, est-ce qu'on le laisse passer ou pas? Et on peut témoigner de l'attention aux personnes, qui sont peut-être plus importantes que le règlement. Bien sûr, il y a des élèves des fois qui sont mal orientés, qui vaut mieux qu'ils aillent faire autre chose, mais quand même, l'attention aux personnes, l'attention à des élèves qui ont plus de peine que les autres. Voilà, c'est, je pense, à travers des choses comme ça qu'on peut faire passer quelque chose. Maintenant, il y a aussi des moments de la vie où on est peut-être soi-même effondré par une maladie, par une séparation, par un deuil. Et là, on a besoin de l'attention, on a besoin des autres. Mais peut-être qu'on transmet aussi quelque chose en accueillant simplement, humblement, l'aide des autres dont on a besoin. Tout simplement. Voilà, alors je vous laisse simplement avec cette question. Qu'est-ce que j'ai reçu de précieux à transmettre? Et puis, comment est-ce que je peux le transmettre?
Thank you.
Alors, on voulait profiter en cette fin d'année où on est moins nombreux, pour peut-être c'est plus intime aussi, pour vous proposer un moment de partage tout à fait libre. Donc, partage, questions, partage de ce que vous avez vécu pendant l'année, de ce qui vous a marqué, de ce que vous aimeriez vraiment nous partager. Et sentez-vous tout à fait libre. Ou prière, moment de prière aussi, vraiment que ce soit sous n'importe quelle forme. Levez simplement la main si vous voulez la parole.
Je veux juste témoigner qu'en début d'année, je ne pouvais plus marcher. Et grâce à vos prières, grâce aux médecins, aux chirurgiens, je peux de nouveau me déplacer et j'en donne toute la gloire à Dieu. Un petit témoignage de la fidélité de Dieu. Juste avant mon opération, j'avais quelques soucis de remboursement avec ma caisse maladie et j'étais passablement perturbée. Et voilà que quelques jours avant l'opération, je reçois par la poste un double courrier. Une première lettre de l'assurance maladie qu'il me disait qu'il regrettait, mais qu'une partie de mes frais ne serait probablement pas remboursée. Et l'autre lettre, trouvée dans ma boîte aux lettres, venait de Sylvie Ménétret, qui envoie très souvent des versets. Et le verset reçu en même temps, ce jour-là, était, toujours dans les psaumes, « glorifie Dieu » et sa parole, glorifie Dieu et sa parole, glorifie Dieu et sa parole. Donc la répétition de ce verset tout simple m'a interpellée et j'ai dit bon, j'ai deux solutions, ou de me faire du souci ou de prendre par la foi le verset. Donc j'ai décidé de glorifier Dieu et sa parole et de ne pas me préoccuper de l'autre lettre du groupe mutuel, de l'assurance. Donc j'ai pu rentrer à l'hôpital de façon royale, dans une paix magnifique, et par la suite, j'ai reçu l'intégralité du remboursement de tous mes frais médicaux. Donc voilà, c'était juste une grande reconnaissance et un émerveillement de nouveau de voir l'action de Dieu et sa fidélité dans les vies. Amen, oui.
Moi, c'est aussi quand j'ai eu l'opération de mon genou. Et comme je n'ai pas pu être opérée ici, on m'a opérée à Montreux. Et j'étais angoissée. Je me disais, là, il n'y a personne qui vient me trouver. Et puis, je remercie le Seigneur parce que quand même, je me trouvais là-bas, mais je n'étais pas seule quand même parce que j'ai été vraiment magnifiquement soignée comme il faut. Et je n'ai pas pu aller en convalescence, mais je l'ai passé à la maison. Et à cause de ça, par la maison, ce n'était pas IMAD, c'était Flexi, qui est une autre maison. J'ai connu une dame qu'on m'a donnée pour faire le ménage, une Éthiopienne, que tout de suite, on a eu contact parce qu'elle était chrétienne. Excusez-moi la voix, parce que j'ai beaucoup chanté avec pour mes fêtes. Et puis, avec cette femme, on s'est tout de suite... elle se rappelle encore maintenant parce que je lui ai demandé, vous êtes chrétien, vous connaissez Jésus? Moi, je lui ai dit, elle m'a dit oui. Et on a tout de suite vraiment sympathisé. Et elle est comme ma fille. Moi, je suis comme sa maman. Et chaque année pour mon anniversaire, comme hier, elle m'a fait une fête magnifique. Et c'est gloire à Dieu, vraiment. C'est par Jésus qu'on a pu se connaître. Et puis, tous les bienfaits du Seigneur de toute l'année, de toute ma vie. je rends gloire à Dieu. Merci. Adieu.
J'avais envie de rebondir sur ce qu'a dit Sylvain, enfin sur la parole de ce matin, dans le sens où il y a du bois, de la paille, du foin, ou bien il y a de l'or, des diamants et de l'argent. Qu'est-ce qu'on transmet ? Et je dois avouer que ça m'a interpellé ce matin, parce que moi j'aime bien les rencontres. J'aime bien aussi quand ces rencontres, elles sont près des gens qui ont un peu qui sont un peu décisionnaires ou qui sont en vue, et je me rends compte que je suis assez fier de ces rencontres-là, je suis assez fier de moi d'avoir pu rencontrer ces gens-là. Et je me suis dit, je m'interpelle ce matin en me disant, mais est-ce que ces rencontres, est-ce que mes relations en disant, ah, je suis très content, c'est de la paille plutôt que de l'or ou des diamants que je transmets. Donc ça m'a interpellé ce matin, et j'avoue que pour 2026, c'est peut-être quelque chose où l'orgueil... Je dois faire attention à l'orgueil. Alors merci à Sylvain. Merci à notre père aussi d'avoir mis à Sylvain à cœur de ce sujet.
Oui, par rapport au message de Sylvain, c'est vrai que il y a quelque chose et se construire. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait un slogan qui sortait, c'était « Construire, c'est bien. En bois, c'est mieux. » Et alors, c'est vrai que je disais « Bon, ben, en bois, c'est quand même pas mal. Et on fait des belles choses. Et aujourd'hui, on le met. » Voilà. Mais c'est vrai que la suite, après, c'est j'ai transmis, j'ai essayé de transmettre, comme Sylvain et d'autres, ce métier à bien des jeunes gens, autour, voilà, avec d'autres, bien sûr, on n'est jamais tout seul. Mais c'est vrai que enseigner, transmettre, c'est la plus belle des choses, je crois, qu'on peut avoir, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans la famille. Par contre, c'est vrai que souvent, j'aimerais pouvoir dire des choses, et puis... Il faut savoir les dire, comment, surtout dans la famille, c'est des fois très, très, très délicat. Et voilà, c'est des questions qui sont là et qui reviennent. Et qu'est-ce qu'on va laisser ? Il disait Sylvain, qu'est-ce qu'on va laisser ? Hein, voilà. Et des fois, on est déçu, on dit, oh, mais c'est marrant, il ne suit pas, il ne va pas, etc. Donc, c'est des questions qui nous habitent tout le temps. Et jamais, je ne sais pas, c'est des questions qui ne s'arrêteront jamais. En fait, c'est quelque chose qui est toujours là, qui imprègne nos vies, ma vie. Comment je transmets la foi, comment je transmets, mais pas que professionnellement, pas que dans l'église, mais surtout, notamment au niveau de la famille, des amis, de la gym, du volet, on fait du volet. C'est très difficile de le dire à Noël. Rappelez-vous, Jésus est né, ou des trucs comme ça, mais voilà, c'est pas toujours facile. Et alors, on s'encourage les uns les autres à laisser la plus belle des traces après nous.
J'ai la joie de faire partie d'un groupe de prière et d'écoute de Dieu depuis quelques années, ici, dans cette église. Et je me réjouis de progresser dans cet esprit de prière et d'écoute de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que bien sûr, nous sommes là pour prier Dieu, pour lui faire des demandes, pour réfléchir à notre relation à lui. Mais nous avons aussi besoin d'être à l'écoute de Dieu, de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alors, il y a sa parole, mais sa parole, c'est aussi une parole qui nous est donnée dans notre cœur, quelque chose qui est beaucoup plus profond que des paroles que nous lisons. Et mon désir, c'est de progresser dans cet état d'esprit, mais aussi que notre Église puisse elle-même recevoir cette écoute de Dieu, pouvoir vivre de cette relation étroite avec Dieu qui nous parle, qui a quelque chose à dire à chacun de nous. Et voilà ce que j'aspire, c'est que nous puissions progresser dans cette direction. Et ce que je vis, je puisse aussi, d'une manière ou d'une autre, le transmettre à d'autres. Voilà.
Courant le mois de décembre, j'ai la chance de partir en voyage professionnel en Chine. Et durant ces 12 jours, en fait, j'étais accompagnée par avec une femme. On est resté vraiment tout le long ensemble, dans un groupe d'une quinzaine. Et à un moment donné, une des responsables, elle est chinoise, du coup, pour les procédures là-bas, elle a dû boire pas mal d'alcool. Et elle est tombée dans le coma. Et du coup, ben, je l'ai prise en charge, je l'ai prise pour dormir dans ma chambre. Et le lendemain, j'ai discuté avec cette femme avec qui j'avais pu parler de ma foi, j'avais pu parler du Saint-Esprit. Et où elle avait été faire des recherches un peu plus loin. Elle était voilà, intéressée par rapport à tout ça. Et à ce moment-là, elle m'a dit, ben, on voit vraiment les chrétiens du dimanche et puis ceux qui ont vraiment la foi dans leur cœur et qui le vivent au quotidien. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, en fait.
Je terminerai par la prière. Oui, Dieu est Père, c'est vrai qu'en 2025, j'ai souvent apporté des montagnes de foin, des chars de foin. Mais c'est vrai, Seigneur, tu nous as dit que c'est quelque chose qui disparaît très facilement, qui brûle très facilement. Alors, Seigneur, aide-nous. Tous, aide-moi à apporter plutôt des pierres précieuses, des choses qui restent, des choses qui parlent de toi et que nous puissions autour de nous apporter quelque chose à d'autres personnes qui ne te connaissent pas. Oui, Seigneur, toi, quand tu étais sur la terre, tu avais Pierre, Jacques et Jean qui te suivaient. Que nous puissions te suivre jour après jour, pas après pas. Amen.
Avant de prendre la scène ensemble, chantons un dernier chant. Merci pour la croix.
Alors, pour introduire ce temps de Sainte-Cène, je vous propose la lecture de quelques versets dans Ésaïe 53. Il n'avait pas d'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. On l'a arrêté, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son sort?
Dans Ésaïe 53, c'est le chapitre du serviteur souffrant. Ce chapitre est fondamentalement lié à la Sainte Cène, car il prophétise le sacrifice de Jésus-Christ. Le pain représente son corps brisé pour nos fautes, et le vin, son sang versé, offrant pardon et guérison. La Cène est pour le croyant, un souvenir de ce sacrifice, nous rappelant comment le Christ, cet agneau immolé, a porté nos peines pour que nous soyons guéris par ses meurtrissures. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En prenant la Cène, je reconnais que Jésus a payé la rançon pour mes péchés afin de me réconcilier avec Dieu. À moi de répondre à son appel et de lui dire comme Samuel autrefois, « Seigneur, parle, ton serviteur écoute. » Est-ce que je réalise vraiment jusqu'où le Seigneur s'est abaissé par amour pour moi? Il est aujourd'hui vivant, ressuscité à la droite de Dieu. Puissions-nous dire, comme les disciples d'Emmaüs, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Seigneur, merci, parce que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Aide-moi à vivre comme quelqu'un qui a été libéré et à t'honorer dans tout ce que je fais. » Je lirai les versets de Matthieu, 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Alors, on va passer dans les rangs et pour ceux qui aimeraient la coupe plutôt que les petits gobelets, simplement faire signe de la main.
Merci pour ton pardon. Apprends-nous à vivre au quotidien de ce pardon. Apprends-nous à vivre une vie de service comme tu as été au service de chacun. Et que ton amour imprègne notre quotidien jour après jour. Amen.
Alors, on va encore passer aux annonces. Effectivement, le dernier jour de l'année, il n'y a pas grand-chose à annoncer. Donc, pour cette semaine, pas de rencontre particulière. On vous rappelle que le pasteur est en vacances jusqu'au 2 janvier. Donc, il sera là pour le culte du 4 janvier. Et est-ce que vous avez la slide pour le 31? Est-ce que c'est possible de l'afficher? Voilà, merci beaucoup. Donc oui, cette semaine, quand même, un grand événement, c'est le 31 décembre. On a déjà beaucoup d'inscriptions, on est près d'une quarantaine, donc merci à tous ceux qui se sont inscrits. On a encore la liste ici dehors, donc s'il y a encore une personne seule ici qui désirerait s'inscrire pour la soirée du 31, c'est le tout dernier moment, parce qu'après, pour des questions d'intendance, on est vraiment obligé de savoir combien de personnes seront là. Juste une toute petite précision, il y a une petite case juste à la fin quand vous avez signé pour votre présence, vous ne l'avez peut-être pas vue, et c'était mis dans cette dernière case, dessert. Alors si quelqu'un parmi vous voulait encore amener un dessert, qu'il mette juste une petite croix dans cette dernière case et ce serait très apprécié pour qu'on n'ait pas encore la charge de tous les desserts. Voilà, et encore une toute dernière info. Avant de passer à l'offrande, je ne sais pas si vous saviez le scoop de la semaine, c'est Nathalie qui fête ses 90 ans. Et elle nous invite pour un apéritif après le culte. Merci à elle. Maintenant, on va encore passer les sachets pour l'offrande. Donc, on vous rappelle que notre église n'est pas sponsorisée, on dépend entièrement des dons. Mais sentez-vous tout à fait libre. Donc, vous avez la possibilité de payer par Twint, vous avez la possibilité de mettre dans les sachets ou de faire des ordres permanents. On vous remercie d'avance. On te remercie, Seigneur, pour cette offrande. On te remercie pour la générosité des gens. On te demande aussi de diriger tous ceux qui vont devoir distribuer cet argent pour que tu leur donnes toute la sagesse nécessaire pour le faire. Amen.
Voilà, vous pouvez vous lever pour parole finale. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Soyons reconnaissants pour tout ce que nous avons reçu tout au long de cette année et que nous soyons inspirés pour transmettre l'amour de Dieu tout au long de nos journées. Soyez bénis par le Seigneur. Amen.